Le flux produit, c'est clairement la chose la plus importante sur Google Ads aujourd'hui. Et on a la chance aujourd'hui avec Alexia d'être allé à l'événement partenaire de Chainable, qui est une des solutions leaders dans le domaine de la gestion de flux. Et on vous propose un débrief de ce qu'on a appris aujourd'hui en parlant avec les autres intervenants et aussi des évolutions à prévoir sur la gestion des flux, notamment avec tout ce qui touche au référencement sur les intelligences artificielles, que ce soit de manière organique ou de manière payante avec l'arrivée des publicités. Hello Alexia.
Salut Maxence.
Donc qu'est-ce que tu retiens, là on est à la fin de la première journée, qu'est-ce que tu retiens de ce qui s'est passé aujourd'hui ?
Alors moi ce que j'en retiens de l'événement de Chainable, c'est que déjà aujourd'hui le flux produit c'est encore bien un sujet sur lequel il faut absolument maîtriser. J'ai parlé avec énormément de personnes, je crois qu'il y a même une personne qui venait des États-Unis, ils ont dit qu'ils ont migré 150 comptes chez eux en moins de 2 mois. Donc je pense que ça montre aussi l'urgence et le besoin aujourd'hui d'avoir une bonne donnée sur son produit, parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel on peut encore avoir de la maîtrise, que ce soit si bien à travers une campagne Performance Max ou Shopping, c'est bien la data qu'on envoie dans ces campagnes. Et donc pour moi, et je le dis, je pense déjà depuis un certain temps que la data produit, elle est hyper précieuse. Et je trouve que là, ça ne fait que renforcer le propos. Ils ont en plus leur CSS partner et la fusion avec Productiro qui arrive aussi. Donc ça montre bien les enjeux là à venir aujourd'hui, aussi au sein de Google Ads pour en parler, parce qu'on en a aussi parlé autour de nous. Le marché, il se passe aussi des choses sur le marché, que ce soit en France ou à l'international.
Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se plaint, entre guillemets, depuis des années de l'automatisation à outrance. C'est encore plus vrai maintenant avec l'intelligence artificielle, mais depuis genre 2021, les gens se plaignent de Performance Max en disant « Ok, ben, on peut plus rien contrôler, Google est autonome et on n'a aucun moyen de choisir nos produits, etc. » Alors que déjà, de une, ben, c'est complètement faux. De deux, tout le monde connaît aujourd'hui le script de Microsoft qui permet de segmenter ses produits. Mais en plus de ça, il y a quand même un élément sur lequel on est tous encore plus ou moins autonomes selon nos relations avec nos CMS e-commerce, c'est la gestion du flux produit, comme tu le dis, et la donnée produit, qui est encore largement sous-estimée, et on a encore eu l'occasion de le voir aujourd'hui.
Ah oui, complètement. Moi, de toute façon, dans les premiers sujets sur lesquels je suis intervenue sur des questionnalités, des problématiques de flux, ça a été via des agrégateurs. Et moi, j'ai les directeurs marketing qui m'ont toujours dit « Mais en fait, là, je te donne l'outil, l'agrégateur de flux. Tu peux faire des petites règles toi-même pour optimiser parce que moi, bah, bande IT, elle est complète, elle est pleine. De toute façon, tu ne pourras rien optimiser via IT. » Donc, c'est aussi tout cet enjeu-là qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est un outil hyper simple et de no code. Il n'y a vraiment pas besoin de connaître quoi que ce soit en termes de coding. Il faut juste avoir une logique si produit contient alors sinon. Une fois qu'on maîtrise ça, il n'y a rien de plus simple pour maîtriser un agrégateur de flux.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement dans la voiture, on a été appelé par un client qui avait des problèmes de référencement de produits. Donc c'est vraiment la preuve par l'exemple. Et comme souvent, c'est il faut vite lancer les produits, il faut vite que les fiches produits soient actives. Et entre guillemets, tant pis pour la donnée produit, il faut juste que ça sorte le plus rapidement possible. Sauf que derrière, nous en acquisition, alors en SEO c'est encore autre chose, mais en acquisition, aujourd'hui, faire du Google Shopping avec des fiches produits qui sont bancales, c'est clairement partir faire le marathon de New York avec des tongs.
Oui, c'est sûr. Après, il y en a qui le font en tongs, mais ils sont bien téméraires. Moi, ce que je pense, c'est qu'à ce niveau-là, il faut juste maîtriser le produit. Et après, il faut aussi décomplexifier. Et ça, ils l'ont très bien dit dans les différentes interventions aujourd'hui. C'est qu'on peut très bien aujourd'hui lancer quelque chose en état parce que, en fait, quelque chose en état, on viendra l'optimiser au fil de l'eau, en fonction aussi des apprentissages qu'on en a. On n'a pas besoin du perfect au lancement. Forcément aussi que c'est des plateformes qui évoluent. Moi, je vois tout le monde parler de « il fallait mettre le nom de sa marque » ou si on était revendeur, le nom de la marque revendue en premier, puis après, on mettait le produit et toutes les autres thématiques. Aujourd'hui, juste tout le monde le fait. Il va falloir m'expliquer aujourd'hui quel est l'avantage concurrentiel à le faire parce que finalement, il n'y en a pas. D'ailleurs, on voit même des marques qui font l'inverse aujourd'hui à date. Donc, c'est toujours des événements de marché et des choses à bien prendre en compte. Mais effectivement, il y a plein d'enjeux. Et moi, quand je vois même sur des flux que, par exemple, le free listing, il n'est pas actif, l'une des choses premières qu'on fait, et pourtant, je fais de base que des ads, c'est je l'active et je le mets à dispo, quoi, parce que c'est la data, c'est ce qu'on voit dans un inventaire. Enfin, moi, je me souviens de Google aussi, il y a 3-4 ans, comment ils montraient avec leur inventaire shopping, search, même display, comment c'était affiché. Là, shopping, il ressort, et il ressort vraiment de partout, quoi. Et ça, ils l'ont si bien dit aujourd'hui, une campagne performance max, avec un flux produit pour les e-commerçants, c'est à minimum 80% de diffusion et donc de dépenses sur l'inventaire shopping.
Ouais, ça c'est ce qu'on cherche tous à avoir. Et pour autant, même si l'info est disponible dans les interfaces Google aujourd'hui de manière native, t'as encore peu de personnes qui le font. Et un des problèmes que j'ai avec ça, mine de rien, c'est que même si tu le sais, les leviers, si jamais tu vois que ta campagne Performance Max, elle part en vrille et elle va faire du display, elle va faire du discover, entre guillemets, tu peux pas lui dire stop, tu peux pas lui dire d'arrêter. Donc ça, dans tous les cas, c'est bien de le savoir, mais t'as pas encore l'opportunité, on va dire, de le contrôler aujourd'hui dans Google Ads.
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, à part les petites exclusions display, et encore, c'est bien mignon, on n'arrive pas aussi facilement qu'on le veut à limiter du discover. De toute façon, il y a quelques manières de faire des campagnes par max. Celle qui parle le plus, c'est celle où on active absolument tout. L'autre, c'est la feed only. Il y a ceux qui sont pro feed only, ceux qui sont pro full asset. La vérité, c'est juste de tester aussi et de se faire une opinion. Moi, je conseille aussi de ne pas oublier shopping, parce que des fois, une bonne vieille campagne shopping standard, elle fera tout aussi bien le travail. Faut vraiment pas le limiter là-dessus. Mais oui, Google veut se prendre de la data. Je pense aussi que là, on voit ce phénomène. Moi, j'ai eu d'un seul coup beaucoup de diffusion sur le réseau Discover, qui, comme par hasard, est le réseau phare là, de Demand Gen, avec le reste aussi sur YouTube. Bon, bah, bizarrement, j'ai lancé la petite campagne Demand Gen pour faire plaisir à Google, et ma PMax, elle est revenue de manière bien plus normale. Ou après, je suis repartie sur du feed only. Mais en tout cas, pour moi, et c'est là aussi où, pour refaire le lien aussi avec Chanable, hein, c'est que tout vient se tester, s'AB tester. Alors, il y a des choses qui ont des petits billets aujourd'hui quand même, hein. Mais en fait, ça vient se tester en continu, on prend des apprentissages, et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'ils ont très très bien dit aujourd'hui. Et moi, ce qui m'intéresse le plus et qui montre aujourd'hui qu'on est toujours bien dans le vrai, c'est dans cette segmentation produit. Donc oui, on le sait, on peut complexifier sa campagne et aller piloter à la marge, mais ça, ça demande des informations à remonter, etc. Mais l'une des choses qui ressort et qui ressort assez facilement, et ça fait lien aussi avec le rachat de Productiro, c'est ces campagnes de best-seller qui sont aussi parfois les campagnes où on va prendre les produits cliqués, les produits convertis. On voit qu'il y a un réel enjeu encore à bien maîtriser ces données-ci, tout en ayant par contre la partie automatique. Parce que en fait, c'est pire que l'usine de reprendre son fichier Excel. Moi, je vois, je crois que mon plus gros flux produit, il a 450 000 références aujourd'hui. Donc, ça commence à faire beaucoup. J'attends 10 minutes déjà l'export du CSV. Aujourd'hui, s'il faut resegmenter à la main ces 450 000 produits, heureusement qu'il y a un peu d'IA et juste de règles, de logique aussi. Parce que moi, c'est aussi un des constats que j'ai, c'est que parfois, on va absolument avoir ce produit qui apparaît sur cette requête, sauf qu'il ne fonctionne pas. Et ça, il faut aussi bien le comprendre et bien l'entendre. Donc ce produit-là, il va être dans une campagne à part, avec une stratégie à part. Et c'est toute cette force aussi-là que Chanable va proposer. C'est une stratégie avec une structure.
Ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est que la question du choix entre de la PMax normale, de la PMax feed-only, du shopping standard, ça, on l'avait déjà couvert d'ailleurs sur la chaîne. On mettra le lien quelque part si vous êtes sur YouTube et dans la description si vous êtes sur Apple Podcast. Mais au-delà de ça, on tombe vraiment dans des réflexions que j'avais il y a 10 ans avec les chefs de produits sur savoir quel est le produit qui marche, quel est le produit que eux veulent mettre en avant, même s'il ne marche pas. Et donc, tu viens avec ta donnée pour leur dire, bah non, en fait, ce produit-là, je ne vais pas le pousser avec mon budget parce que moi, mon objectif, c'est la rentabilité, ainsi de suite. Ces questions-là, aujourd'hui, elles se posent de manière différente et elles continuent de se poser via des outils, via des règles métiers qu'on vient insérer plus facilement, on va dire, dans les solutions comme Chanable.
Oui, complètement. Après, il ne faut pas oublier aussi que, heureusement qu'on fait ça, parce que je crois qu'aujourd'hui, je pèse au minimum à un tiers du business chez certains e-commerçants. Chez d'autres business, on monte jusqu'à, je crois, même 70-80% sur Google Ads. Donc, c'est même là où ça devient un peu dangereux, parce qu'on y est fortement dépendant. Donc heureusement que les produits aujourd'hui qui sont le plus achetés sur le site sont quand même ceux qui sont le plus montrés sur Google Ads. Et c'est vraiment cette réconciliation-là qu'il faut faire. Et ça doit se voir aussi sur Google, sur Meta, dans les emailings. Enfin, il y a vraiment une réconciliation marketing dans son ensemble à faire avec les équipes produits.
Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un point que tu as déjà abordé et ils en ont reparlé aujourd'hui, c'est aussi que tu as des produits qui sont cliqués et qui amènent à des ventes croisées, des ventes d'autres produits, soit parce qu'ils sont achetés en complément avec d'autres produits, soit parce que c'est un peu ton produit vitrine, celui qu'en retail, on va mettre sur le devant, la devanture du magasin pour que les gens rentrent dans la boutique, mais ils vont finir par acheter autre chose qui a une plus forte valeur. Ces éléments-là, aujourd'hui, on en parle beaucoup, il y a peu de vrais use cases, même si par exemple sur LinkedIn, sur YouTube, il y a plein de gens qui te disent « il faut absolument faire ça ». Après, quand on regarde dans la réalité des comptes qu'on peut voir dans les audits au global e-commerce, la praticité, le fait de le mettre dans le quotidien, on voit que ça ne s'ancre pas encore énormément dans les décisions de pilotage, par exemple à la semaine, qui peuvent être faites chez certains e-commerçants.
Oui, il y a vraiment une réconciliation de la data aujourd'hui qui est à faire. Et en fait, il faut aussi avoir et être clair là-dessus sur sa propre maturité de business. Moi, j'ai des conversations très précoces là-dessus chez certains. Et je leur dis non, mais laissez-moi cette porte d'entrée-là qui est aujourd'hui le produit cliqué, même si ce n'est pas celui converti. Parce qu'on avait voulu faire des tests, du coup, on a commencé un peu à l'isoler. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on se coupait aussi des ventes. Et là, c'est tout ce qu'on n'a surtout pas voulu faire. Donc, il faut aussi se développer et surtout toujours bien réconcilier la data à ce niveau-là. Parce que moi, je pense qu'il y a plusieurs étapes à faire. Aujourd'hui, c'est sûr que Google, ça fait longtemps, ils ont essayé de mettre pas mal de choses en place, notamment, moi, je pense à Carte Data aussi. Et il y a plein d'autres outils tiers qui permettent aussi de réconcilier le produit cliqué et le produit converti. D'ailleurs, dans mes hypothèses des annonces qu'ils vont nous faire demain, je pense que Tianable va nous sortir des actualités justement entre ce produit cliqué et converti, ou pas. Mais c'est ce que j'avais l'air de ressentir aujourd'hui.
Il avait l'air d'être dans ce sens-là, effectivement.
Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut analyser, avoir du retour aussi sur sa data, parce que aussi des business très saisonniers, il faut faire hyper, hyper attention. Des business aussi, on a des nouvelles collections. Et en fait, le produit super cliqué, maintenant, il est complètement obsolète parce qu'il y a la version 2026, 2027, 2028 qui va sortir. Il faut vraiment y faire attention. Et il ne faut pas non plus oublier, et c'est là aussi où niveau campagne, il faut réconcilier, c'est que par moment aussi, les campagnes, elles ont un très gros learning sur des typologies de produits. Et en fait, la campagne, il faut soit l'apprendre à faire partir, soit on n'a pas ce luxe d'attendre et il faut peut-être relancer quelque chose d'assez nouveau. Donc c'est aussi là où c'est hyper intéressant et peut-être même de sortir de la vision de plateforme encore une fois. Moi, j'aime bien reprendre aussi données Analytics, Shopify, mais aussi juste les données Google pour les réconcilier. Donc pour moi, c'est des niveaux, ça dépend du niveau de business dans lequel on se situe pour vraiment poser le sujet et surtout les conclusions qu'on en a derrière.
Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est cette partie contrôle dont on parlait. Il y a aussi parfois des dépendances. Alors, tu parlais des dépendances de mix quand Google pèse une part trop importante dans le business d'un client où du coup, on se met à risque là-dessus. Ça, c'est un problème soit lié à la taille du client ou forcément, quand on a certains clients qui sont tout nouveaux, tout beaux, qui font 1 million, en fait, le but, c'est déjà d'atteindre les premiers plafonds de croissance et les premiers paliers de croissance, en tout cas, et après, de venir agrémenter ça avec du SEO, du MetaAds, du CRM évidemment, mais aussi chez certains, tu vas avoir ce souci de la dépendance aux produits et le problème de stock avec soit des marques partenaires où tu as des quotas par exemple où tu peux pas sourcer plus de X produits par mois, par trimestre, etc. Je pense à certains clients en particulier qui ont vraiment des unités particulières, ils peuvent pas commander plus. Et même sur le sourcing en général, tu vois, moi dans mon ancienne vie, on sourçait à l'autre bout du monde, donc forcément le réapprovisionnement prenait du temps. Et quand tu as un best qui tombe en rupture, c'est tout ton learning de campagne qui peut tomber à l'eau. Et ça, aujourd'hui, pour en avoir discuté avec d'autres personnes aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là et qui ont du mal à réagir justement quand tu as une dépendance mix et produit, enfin mix produit et marketing, qui vient te percuter. C'est comme percuter un mur à 130 km/h. Et t'as un côté ébahi où on ne sait pas trop comment réagir. Et ça, il n'y avait pas trop de solutions autour de la table, j'ai eu l'impression aujourd'hui.
C'est ça. Après, là, pour le coup, moi, je me suis peut-être sentie un peu plus à l'aise sur le sujet, étonnamment. C'est parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'est comme ça aussi que ça a été construit. Hein, c'est que il fallait absolument avoir une agence sur Google, une agence en SEO, une agence en Meta, et avoir son conseiller qui est en fait avec le codir externe. En fait, forcément que moi, aujourd'hui, un conteneur qui est perdu dans l'océan, alors qu'il devait arriver 10 jours avant le Black Friday, j'ai plus de stratégie pour le Black Friday, donc j'en suis hyper dépendant, et ça va dépendre, il faut se réadapter, il va falloir refaire travailler l'offre. Et en fait, je ne vais pas dire, ma stratégie, c'était fait, et peu importe. Et puis après aussi, oui, par moments, c'est super simple de se faire de l'argent et on lance les best-sellers. Et tant que ça marche, ça marche, parce qu'il faut aussi avoir ces produits-là. Mais effectivement, c'est un peu comme la dépendance à juste Google Ads. Des fois, on a de la dépendance sur juste ces produits-là. Et il faut savoir préparer le terrain sur le reste. Et donc moi, aujourd'hui, quand je dis des comptes, je me rends compte que j'ai des produits qui sont super coûteux. Et en fait, la PMAX, elle dépend sur 5 ou 10 produits qui sont hyper coûteux, qui convertissent quasiment jamais. Bon, on commence à segmenter. Mais forcément, quand ma data aussi, il y a des produits sur lesquels je ne diffuse pas parce que le catalogue s'est fait cannibaliser. En fait, c'est juste stratégiquement et très logiquement, en fait, mes produits qui sont, alors on les appelle les zombies et les zéro conversion, quand on n'a pas de data sur plus de 30 jours, forcément que c'est sur cette typologie-là de campagne qu'on va mettre beaucoup d'argent pour faire du volume, pour avoir du learning, et petit à petit, parce qu'on va se dire, c'est trop bien, ça fonctionne, ça fonctionne. Puis dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais je comprends pas, ça fonctionne bien. Oui, les produits ont été labellisés, donc il fallait décaler son budget. Et en fait, c'est toute cette agilité et c'est sa data produit qu'il faut vraiment connaître. Et aujourd'hui, pour moi, c'est indispensable d'aller parler avec les équipes produits, aller parler avec des dirigeants, savoir où est-ce qu'ils en sont sur leur stock, leur nouvelle collection. Je pense à tous nos camarades du meuble qu'on peut accompagner aussi. On est courant mars, ils ont lancé l'outdoor. Forcément que sur cette data-là, à 30 jours, j'en vendais pas, moi, il y a 30 jours, des tables de jardin. Donc, c'est toute une stratégie. Il faut les implémenter, il faut leur donner une place parce qu'on va en vendre.
C'est là où je trouve que c'est intéressant de dézoomer finalement de la stratégie purement Google Ads de l'époque. Et au final, tu retrouves une stratégie produit qui ressemble plus à ce qu'on avait côté animation commerciale et ainsi de suite. Donc au final, côté CRM, par exemple, on a toujours suivi des plans d'animation commerciale qui sont très millimétrés presque et avec quand même une certaine agilité, par exemple, météo sensible si on est sur de l'outdoor dans le mobilier, par exemple. Mais cette tendance-là, sur la partie publicitaire, en tout cas, moi, les agences avec qui je pouvais travailler étaient très passives et très en attente de ça. Là où aujourd'hui, en fait, tout va tellement vite aussi que tu ne peux pas demander à un client de penser à prévenir ses X interlocuteurs que, attention, c'est le début de l'outdoor. Et donc, c'est charge à nous, aujourd'hui, maintenant qu'on est côté agence, de dire... Attendez les gars, c'est quoi le plan et comment nous, ça vient s'inscrire dans nos outils publicitaires et dans notre capacité à mettre sur le marché, marketing, hein, mettre sur le marché, les produits au bon moment, ce qui fait aussi le sel du marketing digital aujourd'hui.
Ouais, et d'ailleurs, c'est là, ça me fait penser aussi à d'autres propos qu'ils ont tenus, même sur le search, en fait, où on voit que tout le monde a abandonné le navire sur le search. Du coup, s'il y a des opportunités à saisir, et ça, ils ont bien aussi montré les techniques d'utiliser les datas du flux et de shopping pour venir le positionner en search, qui est juste des choses que je pense qu'on fait depuis quand même un certain temps. Donc ça m'a fait sourire, parce que personne ne croyait sur ces projets-là, et ils sont en train de dire « mais c'est le truc à faire ». Donc j'ai hâte qu'ils sortent aussi, qu'ils remodernisent un peu ça sur LinkedIn, pour pouvoir enfin lancer les projets qui sont dans le placard depuis 3 ans.
Je pense que le search aussi, il a été abandonné ces dernières années, surtout depuis Performance Max, parce que ça arrange bien beaucoup de monde côté agence, parce que le search, c'est hyper chronophage aussi en gestion. Et aujourd'hui, le but de pas mal d'agences, c'est quand même d'aller chercher de la marge et donc de réduire les temps de gestion. Et le temps de gestion sur le search, surtout s'il n'est pas bien automatisé et si on n'a pas les bons rituels en face, les bons scripts à mettre en face du volume à traiter, finalement, on peut se retrouver à avoir de la non-qualité dessus, du mauvais ROAS ou en tout cas du mauvais CPA selon comment on pilote et se dire le search ça marche pas, regardez les chiffres. Mais en fait c'est normal parce que le search ça demande beaucoup de travail pour déjà s'amorcer, pour avoir une impulsion initiale et ensuite même sur des comptes qui font des ads depuis plus de 15 ans, on continue de faire des exclusions de termes de recherche toutes les semaines et ça, je sais pas à quel point c'est mythologique en mode on veut pas faire donc on dit que ça marche pas ou à quel point c'est on sait pas faire donc ça marche pas donc on n'en fait pas. Ça, j'ai du mal à voir parce qu'aujourd'hui, on a quand même eu des belles études de cas avec du chainable où en plus, on vient chercher le stock des catégories produits, des marques, des tailles même, ce qui avait du prêt-à-porter, pour automatiser du search, en tout cas une partie du search là-dessus. Ça prouve qu'il y a encore des choses à faire là-dessus. Et comme on est sur un marché d'enchères, le fait qu'il y ait moins de monde qui le fait, ça laisse aussi plus d'opportunités là où shopping est peut-être pas saturé, mais en tout cas est assez cher aujourd'hui en 2026.
Ouais, c'est ça. Moi, si j'en reviens sur 5 ans, si on voulait scaler un peu son business, on pouvait faire des tests sur Performance Max, on pouvait tirer beaucoup d'argent là-dessus. Je pense que Dimondgen, il y a eu aussi des belles opportunités. Et maintenant, c'est juste les choses à absolument avoir. Et effectivement, par contre, là où le search, on a des vieilles structures qu'on a tendance à mettre un peu aux oubliettes avec 320 000 exclusions de termes de recherche à travers les listes aussi. Je pense que le search, on l'a juste un peu mis. Il faut se dire que c'est super chronophage, mais il y a juste aussi une révolution de l'IA qui est en train de se faire. Et en fait, tous les éléments hyper chronophages, on peut gagner un temps de fou aujourd'hui avec l'IA. Et moi, j'ai un peu de mal des fois aussi à comprendre, c'est que de se dire, mais il y a des opportunités business et je ne comprends pas aujourd'hui quand. Bah, en fait, on est assez serein sur sa data, sur son flux produit, que c'est segmenté, ça tourne à peu près correctement, qu'on ne puisse pas se remettre du temps sur le search qui aujourd'hui va forcément générer du chiffre d'affaires. Parce que si moi on me demande aussi souvent bah, comment je fais en sorte que ma campagne Performance Max j'aille un peu moins sur le search, faudrait peut-être refaire des bonnes campagnes search justement. Et en fait c'est toute une priorisation et une roadmap et des projets qu'on vient poser et c'est hyper challengeant, hyper enrichissant. Parce qu'en plus, je trouve qu'on revient sur des méthodes quasi OSCAG, qui étaient des choses qu'on ne faisait plus. Et moi, je trouve ça hyper, hyper intéressant d'aller chercher des opportunités de niche, mais qui font qu'on est seulement début 2026, ben on va cartonner au prochain Black Friday.
Et le SCAG, c'est une vieille, vieille technique. Hein. C'était le Single Keyword Ad Group. Donc, c'était vraiment un compte qui était détaillé au millimètre avec un seul mot-clé par ad group. Donc vous imaginez la granularité de la chose, qui sont des choses quand même très anciennes. Là, ce qui est intéressant, effectivement, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens disent que le search ne marche pas, c'est que d'un côté, même si on est en smart bidding, donc on a un target ROAS, un target CPA, il faut quand même faire ces exclusions de termes de recherche non performants parce que Google a forcément tendance à y aller, même s'il y va moins avec le smart bidding. On a quand même une déperdition budgétaire et aujourd'hui, le budget est quand même tellement important, ça l'a toujours été, mais encore plus aujourd'hui qu'hier et encore moins que demain. Le budget, on en a besoin et donc il faut être en renfort là-dessus. Pourquoi ? Parce que si Google a besoin de cette donnée pour optimiser et nous, on veut forcer l'algorithme quand même à aller sur les termes de recherche qui sont un minimum pertinents. Donc, il y a ça d'un côté. Et si d'un autre côté, et ça, c'était une découverte parce que je n'utilise pas assez de Chainable pour maîtriser ces éléments-là, mais le fait de dire, OK, quand on n'a plus de stock sur une marque, quand on n'a plus de stock sur une taille en particulier, ainsi de suite, on vient couper dynamiquement des annonces search, ça vient en renfort d'éléments qui pouvaient être peut-être plus compliqués ou en tout cas qui étaient faits à la main jusqu'à aujourd'hui. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
Oui, mais j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant. Enfin, c'est sûr que là, Chainable s'est posé sur le monde de l'IA et ils nous ont aussi bien teasé de toute façon tout le paramétrage de flux qu'ils ont déjà commencé à activer aussi aux US. L'IA est au cœur de l'outil ici et de toute façon est aussi au cœur de Google dans son moteur de recherche, dans nos expériences aujourd'hui. Ou même le positionnement autour de ça, que ce soit pour du search, du shopping et des sides, autres usages d'IA, moi je pense que c'est ça qui m'a aujourd'hui plus motivée, mis les petites étoiles dans les yeux aussi pour se dire il y a encore des belles choses là qui vont arriver et j'ai qu'une hâte, c'est qu'on lance quoi.
Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un compte Google n'est jamais optimisé à 100%, c'est normal, et il y a toujours des nouvelles choses à faire. Donc ça, il y a quand même pas mal de comptes aussi qui sont un peu dormants, en mode, c'est des comptes de routine, moi j'appelle ça, parce que ta routine toutes les semaines, tu vas faire la même chose, et ainsi de suite. Et c'est des comptes qui sont optimisés pour avancer, mais ce n'est pas des comptes qui sont optimisés pour la croissance. Et les outils comme ça, ce que j'aime bien, c'est que ça te donne des raccourcis sur des petites fenêtres d'opportunité. Alors, je déteste le growth hacking et tous les éléments de shortcut, de raccourcis, machin. Mais quand ça vient s'inscrire dans ces process récurrents et que tu viens, on va dire, muscler petit à petit le compte, je trouve que c'est des opportunités que tes concurrents n'ont pas forcément. Et donc, c'est intéressant d'y aller à l'heure où tout le monde a accès à PMax, tout le monde a accès à Dimondgen, tout le monde a accès à IMAX, mais si c'est les concurrents qui l'utilisent, c'est quand même mieux, parce que IMAX, c'est pas ouf aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on peut avoir en plus de nos concurrents, c'est quand même vachement mieux pour avancer le mieux possible.
Oui, complètement. De toute façon, moi, je crois que c'est là où j'ai fait mon record de CA généré en moins de 24 heures chez un de mes clients. C'est que, en fait, j'ai vu un boulevard d'opportunités parce que ça se voyait. Parce qu'en fait, juste aussi, des fois, utiliser son propre moteur de recherche et faire ses recherches, j'ai vu une opportunité de dingue. Je me suis positionnée. L'année d'après, tout le monde l'a fait. Et donc, je suis arrivée. Bon, bah, c'est pas grave, parce que moi, j'avais mon coup suivant. Je me suis dit, bon, bah, tant qu'eux, ils sont derrière moi et ils sont en train de rattraper, bah, moi, je lance mon coup prochain. Et j'ai déjà le prochain coup aussi. Et c'est ça aussi qui, je trouve, qui doit venir motiver. C'est constamment se remettre aussi dans une expérience utilisateur. Et c'est aussi là que je pense que l'IA va beaucoup changer nos comportements, nos interactions aussi au sein du moteur de recherche. Alors, ce que j'aime aussi, c'est que personne n'a dit que Google était mort demain, avec l'arrivée de ChatGPT, Gemini, et peu importe les data du flux produits qu'on pourra utiliser dans les expériences. Hein. Mais on va arriver sur quelque chose qui va être hyper intéressant, c'est que pour moi, comme quand Meta, Snapchat, TikTok sont devenus des canaux à part, on va arriver sur un canal IA qui va être hyper intéressant, hyper enrichissant aussi, à la fois aussi bien pour le SEO que le SIA, parce que je trouve que pour une fois, on va vraiment pouvoir bien travailler ensemble. Et ça, je trouve que ça va être aussi assez fun. Je ne sais pas toi ce que tu en as pensé, toi, parce que toi qui suis vachement aussi les actus IA, quel est ton ressenti par rapport à tout ça ?
J'étais assez étonné sur un point notamment, c'est qu'il y avait pas mal de monde dans la salle qui utilisait du Gemini, du Claude Code, et donc Claude Code qui est quand même un outil ultime quand on veut faire de l'automatisation, l'IA à outrance, etc. Et au final, les use cases étaient très légers dans la plupart des cas, sans vouloir s'envoyer des fleurs. Hein, mais aujourd'hui, on a cité un des manques pour le coup de Chainable, parce que je rappelle que ce n'est pas sponsorisé. Donc un des manques, c'est le fait de ne pas avoir d'API sur la gestion des flux. Donc on a l'API côté marketplace, évidemment, pour récupérer les orders et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de gestion des règles qui est automatisable via l'API et qu'on pourrait connecter, par exemple, sur une espèce de super agent qui a accès et à Google Ads et à Meta et à Chainable pour faire dynamiquement des règles. Ça, c'est un manque qui, je trouve, est hyper important aujourd'hui, parce que le fait d'avoir une API et de pouvoir se connecter, c'est quand même crucial aujourd'hui. Et pour autant, ça manque à peu de monde dans la salle parce que tout le monde est en train de se battre dans l'interface pour faire des règles. Et donc, l'usage de l'IA est encore très léger dans les use cases parce qu'en fait, on a passé la singularité, et ça mériterait un épisode sur le sujet, mais où c'est pas est-ce que l'IA peut le faire, c'est est-ce que j'ai pensé à un use case que je peux automatiser et décoder avec de l'IA. Et ça, aujourd'hui, ça demande de poser les stylos déjà, de regarder où va le temps des personnes qui sont dans les comptes, où sont les opportunités croisées entre le SEO guy, la SEA girl, et de se dire, OK, comment j'automatise et comment je facilite la jonction entre les deux, parce que un des plus gros nœuds, et pareil, ça mériterait un épisode là-dessus, mais un des plus gros nœuds sur les synchros SEA-SEO, c'est le fait que les gens doivent se parler et se mettre d'accord et partager des informations. Où il y a peu de templates dans ce qu'on voit dans les audits 360, on voit peu de reporting clair, c'est ce mois-ci on s'est positionné bien sur telle ou telle requête, machin. Ah nous ça a coûté cher, bon, il n'y a rien de formalisé. Et ce manque de use case, c'est le fait de ne pas avoir de recul et d'être la tête dans le guidon. Et donc, ce n'est pas tant est-ce que l'IA demain va s'améliorer, parce que ça, oui, encore, ça va s'améliorer, mais déjà aujourd'hui, à quel point on peut exploiter tout ce que l'IA peut faire. Et la réponse, c'est aujourd'hui, la limite, elle est plutôt humaine que via l'IA, et on l'a encore vu aujourd'hui.
Oui, c'est sûr que, alors je ne sais pas si c'est un fait qui est avéré ou pas, mais j'ai l'impression que l'usage de l'IA, c'est un peu comme notre cerveau, où en fait, on n'utilise que 1% de sa capacité réelle. Et je me dis qu'effectivement, il y a une connaissance qui est vachement inégale. Je pense aussi qu'il y a des choses que les plateformes, les agrégateurs tiers, les outils tiers, peu importe, veulent bien garder juste pour eux parce qu'eux, ils en font une grande opportunité. Mais dans tous les cas, c'est sûr que ça va sortir, ça va arriver. Il y a des choses qui vont se positionner. Et justement, c'est toute l'exploitation là-dessus, parce que de toute façon, c'est comme Performance Max, personne n'en voulait, c'est là et ça sera là.
C'est une question d'adoption à chaque fois, mais le sujet de l'IA, de toute façon, on a prévu de le creuser dans un prochain épisode, donc on vous en parlera, à la limite, on le tournera soit demain, soit dans la voiture, on se débrouillera pour que ça sorte assez vite. Mais il y a un point là-dessus sur l'élément phare que je retiens, et des use cases, c'est ce que je vois, c'est la différence entre être occupé et être productif. C'est qu'on fait des choses avec de l'IA, du coup on a l'impression d'avancer, d'améliorer la qualité, de trouver des nouvelles opportunités. Et en fait, juste on s'occupe et on dit qu'on utilise l'IA. Parce qu'aujourd'hui, ça fait bien d'utiliser l'IA. Et sinon, ça fait mal de dire, bah non, en fait, on est un boomer. Et c'est une sacrée différence parce qu'en fait, aujourd'hui, bah, un, quand on est sur des cibles, par exemple, comme nos clients qui ont des équipes qui sont quand même conséquentes avec du responsable e-commerce, des responsables acquisition, des traffic managers, responsables RM, ainsi de suite. Tout le monde est hyper tendu, quelle que soit la taille. Enfin, vraiment, entre 5 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, quelle que soit la taille de l'équipe, tout le monde est au cordeau. Donc, c'est pas tant comment je rajoute des éléments, et c'est ce qu'on dit dans les audits 360 qu'on livre d'autant plus là ces derniers mois, c'est qu'on n'est pas là pour rajouter du travail, rajouter de la charge. Au contraire, il faut chercher où est la charge automatisable, la charge délégable aujourd'hui, et se concentrer plus sur des sujets à forte valeur ajoutée, par exemple, le fait de regarder, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec de l'IA aujourd'hui ? Et le fait, par exemple, qu'un outil comme Chainable a ses règles métiers qu'on peut mettre dedans, bah, c'est un élément qui peut faciliter les liens entre des chefs de produits et des traffic managers. Le fait qu'il n'y ait pas d'API, ça implique d'aller faire les règles à la main, donc ça va rajouter du temps. Mais si on gagne du temps ailleurs, ce temps-là, il est vachement bien investi parce qu'aujourd'hui, ces règles métiers, on voit que même sur des comptes qui sont sur Chainable et qui sont bien gérés, en tout cas dans les exemples que j'ai repris du coup dans les comptes qu'on a aujourd'hui et que j'ai été voir comment les consultants avaient construit le truc, il y a encore des choses à faire dans tous les cas. Donc le tout, c'est de trouver le temps pour que les chefs de produits ou en tout cas les sourceurs puissent parler et partager sur bah tiens, oui, nos concurrents sur ces marques-là, c'est eux, leur avantage c'est ça, nous c'est tel autre argument, bah ok, nous, ça nous aide à travailler.
Oui, c'est sûr, ça reprend un peu ce truc de work smarter and not harder. Et je pense que d'ailleurs, ils l'ont aussi bien dit, et c'est des cas aussi, nous, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, c'est des personnes qui disent, bah, non, j'ai pas plus de budget, mais c'est très bien, on ne veut pas forcément plus, parce qu'en fait, il y a du gaspille. Et donc, on va prendre la même enveloppe, puis faire un peu mieux. Ou en tout cas, différemment en tout cas, et on se ventile ce budget test. Et je trouve que ça marche aussi bien avec de l'argent qu'avec du temps. Parce que moi, combien de temps j'ai pu perdre, ne serait-ce qu'à attendre que mes datas, elles chargent correctement. Je pense qu'en période de points mensuels, à l'époque, je perdais un bon 2 heures. Bah, ces 2 heures-là, aujourd'hui, je les rentabilise et je les investis, mais tellement différemment. Et c'est surtout que juste obtenir la data ne me donne pas l'analyse. Et pas ce que je vais faire. Et je pense aussi qu'il faut se stabiliser et se dire que, OK, le temps est ce qu'on investit, peu importe l'investissement, encore une fois, temps, argent, humainement, c'est de se dire que, OK, on l'investit, mais à valeur et à efficacité et à l'action. Parce que aussi, et ça, je pense que c'est bien l'un des constats, et moi, j'étais très contente d'avoir un marché plutôt aussi worldwide aujourd'hui, qui était de se dire que oui, aujourd'hui, il y a un contexte économique qui est plus compliqué. On a fait post-Covid avec des belles années de croissance. Ça ralentit un peu. Certains sont même en grande difficulté, on ne va pas se mentir. Mais donc, c'est comment on vient du coup réoptimiser, challenger tout ça et faire en sorte que, parce que de toute façon, il n'y aura pas plus d'humains pour travailler, etc. Et les gens sont trop chargés. Les bandes IT sont aussi complètes. Donc comment, avec des outils IA, avec les agrégateurs de flux de Chainable et d'autres API qu'on peut connecter, on va juste travailler mieux et plus efficacement. Et je trouve qu'on arrive à des méthodes où on réconcilie un peu ce qu'on travaillait de hyper chronophage avant, on remet ça un peu à l'état du jour, parce qu'en fait, aujourd'hui, on l'appréhende, mais avec une plus grande facilité et surtout une bien moins grande contrainte.
Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de moyens pour faire les choses. Et c'est ça qui est intéressant. Et je suis assez curieux de voir demain ce qu'ils vont nous proposer sur l'automatisation et sur l'IA. Donc, affaire à suivre, en tout cas, sur ces éléments-là. On verra demain, on vous débriefera aussi, évidemment. Demain, c'est surtout sur les évolutions produits et qu'est-ce qui nous attend dans le domaine de la gestion des flux. Donc, ce qui nous intéresse forcément quand on fait du e-commerce. Donc on vous débriefera tout ça évidemment sur la chaîne, sur les chaînes. Donc abonnez-vous à la chaîne Make Sense, abonnez-vous à la chaîne d'Alexia. On se retrouve très vite pour la suite en tout cas. Et portez-vous bien, faites attention à vos flux produits.
À bientôt.